C'est Philippe Godiveau qui se charge aujourd'hui de la quatrième rubrique intitulée « Ils n'apprennent plus comme avant ». Ils, oui, ce sont bien nos élèves, de vos élèves qu'il sera question ici. Et Philippe, je crois que tu n'as pas choisi la facilité en te demandant ce qu'est un bon jeune lecteur en ce début du XXIe siècle. Pour dresser un tel portrait, il faudrait s'éloigner, me semble-t-il, des a priori qui circulent dans la société et même parmi nos collègues pour fonder la réflexion sur des données solides, mesurables. Qu'en penses-tu, Philippe ?
Eh bien, Serge, une fois n'est pas coutume, pour faire le portrait de ce jeune lecteur du XXIe siècle, je vais m'appuyer sur une enquête de septembre 2013 sur les usages du livre numérique. Entre autres informations, elle nous apprend qu'en une année, la lecture de livres numériques a progressé d'un point, que la pratique des lecteurs d'œuvres du numérique s'intensifie. Le paysage, tu le vois donc, n'est pas aussi gris qu'il y paraît.
Néanmoins, Philippe, j'entends déjà de ci, de là, les récriminations de nos collègues et leurs constats pessimistes sur la lecture.
Ouais, tout à fait d'accord avec eux, Serge. Cependant, je vais tenter ici de les aider en parcourant des yeux trois horizons. Le premier consistera à définir précisément la situation de notre jeune lecteur du XXIe siècle. La deuxième interrogera ce fameux mot « lecture ». Enfin, à l'instar de Michel Serge, proposerait une définition nouvelle de l'illettrisme. Alors, la première idée que je souhaiterais développer consiste à conjuguer le mot « lecture » au pluriel. Certes, l'enseignant de lettres, comme le disait tout à l'heure Baptiste, a une idée claire de ce qu'est la lecture. Parcourir un roman dont la richesse d'écriture nous amène vers une réflexion sur le monde qui nous entoure. Cette vision, héritée du XIXe siècle, pousse alors à affirmer que nos jeunes élèves ne lisent plus. Et ce raccourci, j'ose le dire, est faux. Nos élèves n'ont jamais tant lu. Des messages courts, de type SMS, des mails, des pages internet, des quotidiens en ligne, et tant d'autres. Et nier ces formes de lecture revient à nier ce que nous-mêmes, enseignants, faisons régulièrement. Nous parcourons la une d'un journal, nous lisons en diagonale, avouons-le, l'ordre du jour d'une réunion, et tant d'autres. Derrière le mot « lecture » se cache en réalité la lecture intégrale, la lecture fragmentaire, la lecture de survol.
Oui, mais Philippe, tu conviendras que ce sont ces deux dernières facettes de la lecture qui concernent principalement nos élèves.
Certes, Serge, mais il me semble qu'il faut avant tout casser une certaine image d'Épinal et revoir notre approche de la lecture. Faut-il condamner cette lecture butinage, comme l'appellent certains chercheurs ? À mes yeux, non. Mais il faut partir de cette compétence pour éduquer le regard de nos collégiens et de nos lycéens, pour leur apprendre à poser leur attention, à appréhender des textes qui sont différents de ceux qu'ils fréquentent quotidiennement. Il faut enseigner la lecture et pas simplement les textes pour redonner à cette activité un temps et un espace. Car un autre problème qui se pose à nos collègues réside dans le fait que nos élèves cèdent, mais comme nous tous, à un besoin d'immédiateté. Nous voulons disposer d'une idée et de ses implications dans la seconde. Or, toute bonne lecture demande un temps d'accès à la ressource, associé à un temps d'assimilation, voire de relecture. Cela demande ce qu'Alain Giffard, auteur en 2009 d'une étude sur les pratiques culturelles du numérique, appelle des vacuoles de silence. C'est-à-dire un temps donné à la réflexion sur le texte. Tout le monde conviendra de cette nécessité, mais reste à la mettre en œuvre. Dès lors, cela interroge le temps pédagogique. En effet, pourquoi proposer la découverte d'un texte en classe ? Pourquoi ne pas la prévoir avant et à l'aide d'un forum, d'un blog, d'un wiki, que sais-je ? Collecter les réactions des élèves et s'en servir de point d'appui pour construire le cours. Ce dernier devient alors cette fameuse vacuole où l'enseignant a du temps pour enseigner la lecture. Ce principe s'appelle la classe inversée et favorise grandement la stratégie d'appropriation des textes. Car qu'est-ce que lire ? C'est avant tout et par-dessus tout partager ses impressions, ses émotions, ses idées. Au problème de l'intériorité de la lecture a fait place celui du partage, un terme très à la mode sur les réseaux sociaux.
Allons Philippe, tu soutiens que la lecture en ce début du XXIe siècle dépend d'un simple phénomène de mode ?
Mais non mon cher éminent collègue, ce n'est pas le message que je souhaite faire passer. Mais à travers l'utilisation des outils que j'ai cités, Le jeune lecteur, notre lecteur du XXIe siècle, va retrouver des pratiques personnelles et les mettre au service de son apprentissage. Le problème n'est pas technique, mais se situe dans la définition de ce qu'est un livre aux yeux de ce jeune lecteur. Pour lui, il n'est pas l'objet d'un individu, mais d'une communauté interprétative. Ce ne sont plus le professeur, le libraire qui conseille, mais les médias ou les pairs. Le livre n'est plus l'objet de la traditionnelle fiche de lecture, enfin d'ailleurs ne l'a-t-il jamais été. Il doit devenir, à l'aide des outils numériques, un sujet de réflexion, de partage, ce qui lui redonnera sa polysémie, sa richesse. J'aimerais conclure sur une dernière piste concernant la notion de l'illettrisme. Partons de la définition traditionnelle du mot, on pourrait croire que nos jeunes élèves n'en sont quand même pas là. Cela est vrai, sauf à considérer leur situation. Ils sont placés face à un espace documentaire incontrôlé, qui se présente sous forme hybride, imprimée, numérique, digitale. Le jeune lecteur se retrouve donc face à un objet en pleine mutation, qui lui demande de savoir trouver l'information, la situer dans un continuum immense, de l'évaluer en fonction de ses besoins. Le professeur de lettres est donc au cœur de la problématique. Il est le premier soutien de ce jeune lecteur du XXIe siècle en revenant à l'étymologie du mot « texte ». Il doit en effet lui apprendre à tisser des liens entre ses connaissances et la culture scolaire, entre ses pratiques et celles de l'école. Le regard sur la lecture n'est donc pas si pessimiste que cela, mais nécessite de s'interroger sur ce que nous appelons « lire » et sur la didactique que nous mettons en place. Les élèves ne rejettent pas le papier ou le texte littéraire, mais ils veulent que le lien entre leur pratique culturelle et celle de l'école soit réinvesti de sens. Les souris et les...